Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Hello Mortimer! Ah, mon cher Black! Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Ah, la marque jaune, n'est-ce pas?
Eh oui, les attaques se multiplient.
Vous voyez, l'homme à la marque jaune n'est pas un malfaiteur ordinaire. Il semble agir dans un but déterminé, qui nous échappe encore, mais qui, je le crains, pourrait se révéler terrifiant. C'est pourquoi le Home Office m'a délégué auprès de Scotland Yard pour mener l'enquête avec l'inspecteur chef Kendall, et j'ai pensé à votre collaboration.
Vous avez très bien fait, Black.
Pyramide de Khéops, Le Caire, Égypte. Deux hommes sortent péniblement d'une profonde inconscience. Il leur semble que des siècles s'écoulent, puis, lentement, ils reviennent à eux. Non pas des siècles, mais c'est un peu plus d'un demi-siècle qu'il aura fallu au mystère de la Grande Pyramide, 1954-1955, l'une des aventures des célèbres Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, pour révéler ses ultimes secrets. Vous souvenez-vous de cette bague en or au doigt du professeur Mortimer, offerte par ce vieux sorcier d'Abdelrazek ? A-t-elle un rapport avec les cauchemars incessants qui perturbent les nuits de l'éminent physicien à barbe rousse, désormais quinquagénaire et passablement en froid avec son acolyte, le blond capitaine Blake, toujours en poste au service du contre-espionnage britannique ? Et quelle est donc l'origine et les menaces réelles de ce rayon vert, ce feu glacial et iridescent, sorti du ventre du palais de justice de Bruxelles? Hold chap, c'est l'enjeu du dernier pharaon. Paru le mois dernier aux éditions d'Argo, scénarisé par le romancier Thomas Gunzig et le cinéaste Jaco van Dormael, colorisé par Laurent Durieux et dessiné par François Skuyten. Co-fondateur et architecte de la saga mythique des Cités Obscures 1982-2009 avec Benoît Peters, qui co-signe aussi l'intrigue du dernier pharaon, ce thriller fantastico-décroissant qui semble boucler la boucle avec le réseau de la fièvre d'Urbicande. Les amateurs apprécieront. En tête des ventes, après 5 ans de travail, le dernier pharaon serait aussi le dernier album de bande dessinée de François Skuyten, qui s'expliquera ce soir, dans cette émission, sur sa décision de faire ses adieux au 9e art. Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, tel un phare dans la nuit. Bonsoir, François Skuyten.
Bonsoir.
Alors je précise que vous êtes accompagné en studio d'un magnifique chien noir, un black retriever qui s'appelle Jim, et j'ai l'impression de le reconnaître. Est-ce que j'ai raison ?
Oui, absolument, absolument. Il a un rôle dans Le Dernier Pharaon, puisque c'est un des rares personnages de l'histoire qui est vivant et qui a l'avantage de m'accompagner à peu près partout, et aussi dans la promotion du livre. Ça fait que c'est formidable, parce que j'ai l'impression d'accompagner mon chien, plutôt.
C'est bien.
C'est lui la vedette.
En tout cas, il est sage, très attentif. J'aurai peut-être des questions pour lui à la fin de l'entretien. Alors j'aimerais commencer par revenir à des temps pré-pharaoniques, si on peut dire. Pourriez-vous nous raconter ce moment où vous découvrez tout gosse sur les genoux de votre frère Black et Mortimer? Quel est le premier album, la première image qui se fixe, by Jove?
Alors c'est vrai que c'est un moment important parce que mon frère a 12 ans de plus que moi, il a toujours 12 ans de plus que moi. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il avait besoin de raconter à son petit frère ce qu'il ressentait de la lecture de des albums de bande dessinée. Et Blake et Mortimer était peut-être sans doute le livre qui favorisait le plus une forme de mise en scène, une forme de dramatisation. Et j'ai donc découvert cette série avec la voix de mon frère, avec la façon dont il prenait les accents et ses textes off, évidemment, qui pouvaient sembler, peuvent sembler aujourd'hui un petit peu excessifs, mais qui à l'époque donnaient un peu de crédibilité, de profondeur. Et donc, oui, c'est là où j'ai pris goût, mais très très jeune, je ne savais même pas encore lire, j'ai pris goût à cette série.
Quel album ?
La marque jaune.
Ah oui.
Évidemment, La marque jaune, parce que sans doute, c'est le livre qui permet le plus d'arriver à trouver des climats dramatiques, effrayants. Et Jacob, c'était quand même un auteur assez fantastique, en fait, on l'oublie, mais qui était assez effrayant pour l'époque et dont les images sont restées très, très imprimées dans l'univers des lecteurs.
Et justement, parce que vous écoutiez l'album
à travers la voix de votre frère, mais est-ce que vous aviez aussi l'œil déjà sur la case, par-dessus son épaule que...
Ah non, j'étais vraiment les yeux plutôt rivés sur les images, et j'avais la voix de mon frère. Et c'est ça qui, sans doute, a créé cette imprégnation. Il faut dire que Jacob, c'était un chanteur d'opéra. Et donc, il y avait chez lui une dramaturgie un petit peu oubliée. Quand il est arrivé à la bande dessinée, assez tard, il a 40 ans, quand il arrive au journal Tintin, il va faire ressurgir toute une idée un petit peu dramaturgique, une théâtralisation de ses personnages, une façon d'entrer en scène, et des poses, des postures qu'il a bien assimilées, puisqu'il était un chanteur dans Faust et tout ça. Il y avait l'occasion d'avoir une certaine présence, un univers physique et visuel, puisqu'il se maquillait lui-même, parfois il faisait même la scénographie.
Ah oui.
Et ça a rejailli dans les albums. Et donc c'est un univers qui est très propice à par exemple, des histoires radiophoniques, puisqu'il a été, Black & Mortimer a été enregistré dans des théâtres sonores, je dirais. Et ça a certainement aussi participé à retrouver un petit peu l'origine de cette œuvre, qui est profondément inscrite dans une dimension opératique, et pas dans tout dans une dimension cinématographique. Moi, j'ai jamais rêvé qu'on fasse un Black & Mortimer au cinéma. Par contre, à l'opéra, ça aurait de la gueule.
C'est dans le labyrinthe des égouts que la marque jaune entraîne Mortimer.
Je reviens à ces scènes primitives de l'album sur les genoux du grand frère. Est-ce que vous voyez une case, une scène, un geste, une situation qui va marquer aussi le regard du futur dessinateur ? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans ces albums qui vont constituer votre goût pour la mise en scène ?
Eh bien, figurez-vous, c'est vraiment en faisant ce dernier Pharaon que je me suis rendu compte à quel point c'est une œuvre qui m'a profondément marqué. Je le savais, j'en étais conscient et j'y revenais souvent. Mais là, en y mettant vraiment les mains, et j'avais tous ces livres ouverts sur ma table de dessin pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et du coup, j'ai commencé à voir à quel point j'avais assimilé, véritablement dévoré même, cette œuvre par exemple, les cadrages, par la position des personnages, une espèce de façon de situer l'action par des mouvements qui sont très dramaturgiques, qui sont très, très figés, mais en même temps très puissants. Ça, c'est vraiment l'art de Jacobs. Il se prenait souvent comme modèle, et dès lors, il savait incarner des positions qui lui semblaient les plus représentatives de l'effroi, de l'engagement, de toute une série de choses qui ont créé, en fait, son écriture. Qui ont vraiment créé son langage et son écriture. Mais ce que j'ai beaucoup retenu, c'est sans doute ces cadrages, ces tensions entre personnages et décors et situations. Il travaillait avec des calques et il faisait jouer les choses pour arriver à créer cette tension visuelle. C'est un dessinateur qui, mine de rien, a créé des signes, a créé des espèces de formes graphiques qui sont restés incrustés dans l'imaginaire du lecteur. C'est pas rien, ça. Par exemple, la marque jaune, c'est vraiment un signe. Mais aussi la machine à voyager dans le temps, du piège diabolique. Mais plein de choses comme ça. Évidemment, l'espadon. Comme Tintin, comme Hergé savait faire la fusée lunaire. Ce sont des objets qui sont des icônes graphiques et qui ont une puissance à perdurer. Il s'incruste en nous.
Est-ce qu'il y a une case plus spécifique qu'en redécouvrant à la lumière de votre carrière et de votre parcours, en le redécouvrant pendant la fabrication du dernier Pharaon, où vous vous êtes dit, tiens, ça condense, ça rassemble ce que moi aussi j'ai pu faire à travers tous mes albums?
Oui, le début du piège diabolique où Mortimer entre dans le laboratoire de Milhoc, et un laboratoire un peu en désordre, complètement fantastique. En quelques cases, il situe cette espèce de lieu très, très fantastique, très, très chargé. Oui, je l'avais gardé. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, mais Thomas Gunzik et Laurent Durieux on a fait ce livre tous ensemble, ils avaient gardé les mêmes images. C'est assez amusant parce que c'est un livre qui vraiment a irrigué ce dernier Pharaon.
L'édifice qui est au cœur de cet album, c'est l'extraordinaire Palais de Justice de Bruxelles. Pour celles et ceux qui, parmi nos auditeurs, n'auraient jamais vu ni entendu parler de ce bâtiment, alors j'aimerais lire un texte que vous connaissez, signé de votre acolyte Benoît Peeters, qui figure dans le deuxième tome des rééditions anthologiques de vos cités obscures, en complément de l'album Bruxelles, si vous permettez.
Avec plaisir.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.
Temple babylonien, égaré dans une grosse bourgade, invraisemblable accumulation de pilastres et de colonnes, de porches, de couloirs et d'escaliers. L'œuvre de Poulart est à l'échelle de cette Belgique toute gonflée par sa jeune indépendance et la conquête d'un Congo 80 fois plus vaste qu'elle. Ce monument sera le plus beau, pour ne pas dire le seul, du 19e siècle, déclarait le bourgmestre
en SPAC.
En SPAC, un des plus ardents soutiens de l'architecte. Non sans audace, il avait émis le souhait que la dépense soit la plus grande possible pour que le palais soit digne de sa destination et de la ville où il s'élève. Sur ce point au moins, ses vœux allaient être exaucés. Le personnage de Poulart est entouré de mystères. Les indications biographiques sont rarissimes, les plans ont presque tous disparu. Ex-inspecteur des bâtisses, éphémère architecte de la ville, Joseph Poulart, 1817-1879, n'avait construit qu'une colonne et la moitié d'une église lorsqu'on lui confia la responsabilité de ce palais de justice, annoncé comme le plus grand du monde. De quels appuis, de quels passe-droits le jeune franc-maçon avait-il pu bénéficier ? On apprend que, sitôt pressenti pour s'occuper du palais, il sortit un projet auquel il travaillait depuis 10 ans et qui émerveilla l'assistance. On sait qu'il dessinait presque toujours au fusain, par larges indications de clair et d'ombre, et s'occupait surtout de laisser dans les yeux l'impression d'une puissante ébauche qu'on eût dit jetée sur le papier par une main de peintre. Mais sans doute était-il plus habile dessinateur que directeur de chantier. La construction du palais va s'étendre sur toute la vie de Poulart, et même au-delà. L'imprécision de ses plans, son besoin de les retravailler sans cesse, son caractère fantasque et cassant ne facilitaient pas les choses. Sujet à de brusques illuminations, se méfiant de ses assistants comme du choléra qui sévissait alors, l'architecte se levait la nuit pour modifier ses dessins. Ce chantier, le plus vaste de son temps, évoluait sans devis précis, voyant son budget déjà colossal se multiplier peu à peu par 5. Lorsque les parlementaires excédés réclamaient des plans complets, Poulart les inondait de documents de toute nature, ayant exigé que sa volonté d'artiste ne soit soumise à aucune autorité, hormis celle du ministre de la Justice, il menaçait d'abandonner le chantier à la moindre remarque. Il disparut effectivement plusieurs fois, puis revint, faisant obstinément détruire les extensions réalisées en son absence. Mais la maladie et peut-être la folie eurent finalement raison de lui. Poulart ne vit jamais son ouvrage achevé. Il mourut en 1879 et 4 ans avant l'achèvement des travaux, selon ses dessins, le palais aurait dû être couronné, non par un dôme, mais par une pyramide.
Nova Book Box. Le jukebox littéraire de Radio Nova.
Ouais. Ouais. Oui,
c'est quel personnage extraordinaire.
Extraordinaire.
Vraiment, on croirait inventé par vous et Benoît pour les cités obscures.
Oui, mais vous savez, la réalité dépasse souvent la fiction. Hein. C'est ça notre problème, c'est qu'on a beau croire...
faire tout ce qu'on veut.
Oui, en définitive, on est toujours doublé. Et alors, c'est vrai que l'histoire de ce palais est absolument incroyable. Il a raison de dire, Benoît, que c'est un tout petit pays qui veut... le plus grand palais de justice du monde. Ce palais qui doit dominer la ville, qui doit être symboliser la justice, qui doit être gigantesque, mais aussi représenter le pouvoir de la justice. Et encore aujourd'hui, il domine la ville, même s'il y a eu des immeubles modernes qui ont essayé de rivaliser. Mais il est fascinant quand on arrive en Thalys, on le voit là, cette forme, toujours sous ses échafaudages, mais enfin toujours présent. Ce qui est passionnant, c'est qu'il a fallu presque 18 ans pour sa construction, effectivement, qui a ruiné les caisses de la ville. Ce qui est incroyable, c'est que Poulart avait réussi à avoir un contrat très particulier, puisqu'en fait, il pouvait refaire les plans tant que ceux-ci n'ont pas été réalisés. Donc, on est devant une construction qui évolue constamment, ce qui lui permet d'avoir des repentirs, de transformer les choses, de revenir. Et évidemment, ça rend fou l'ensemble des responsables, parce qu'ils ne savent pas où on va. Et donc, il ne voit pas l'achèvement. Il ne voit pas. Et effectivement, on reprend un peu les choses en main. On met un dôme pour être plus conforme à une royauté naissante.
Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que puisqu'il aurait dû terminer par une pyramide, hein, s'il était allé jusqu'au bout de ce qu'il avait prévu, c'est ce qui est fini par arriver aujourd'hui dans la bande dessinée.
Ouais.
Puisque sans trop révéler, vous avez, révéler ce qui se passe dans l'album, vous avez achevé la vision de l'artiste. J'imagine que ça a été un grand jeu pour vous.
Oui, c'est ça. C'est un jeu, vous avez raison, avec le réel, avec l'histoire, avec... Il y a énormément de choses vraies dans notre album. Puis il y a quelques petits moments d'interprétation qui appartiennent à des raconteurs d'histoire. Mais c'est vrai que c'est important de prendre toute cette formidable réalité qui est insensée. On a détruit évidemment une partie du bas de la ville, les Marolles, ce qui a créé évidemment beaucoup de ressentiment pour les habitants qui étaient assez pauvres, ce qui fait d'ailleurs qu'ils vont en partie dévaliser le palais au moment de l'inauguration. Et puis il était question d'un immense escalier qui traverse ces Marolles. Enfin, tout était hors norme. En fait, Poulard est un metteur en scène. C'est un homme qui voit un bâtiment comme une énorme machine théâtrale, en fait, où les avocats sont les acteurs et évidemment ceux qui vont être jugés sont à peu près terrorisés par la dimension monumentale de ce palais. Et c'était voulu. Il cherchait là à créer, à impacter l'imaginaire des gens. Et donc tout est très chargé. Des sculptures, l'ensemble des motifs graphiques qui, pour certains, sont inspirés de l'Égypte. C'est ça qui nous a beaucoup intéressés.
Oui, à un moment, le personnage dit « Mais l'Égypte est déjà présente ici. »
Oui, et je n'ai rien vu. Il n'a rien vu parce qu'en fait, beaucoup de signes sont là, parce que un des maîtres de Poulard était un féru d'égyptologie, et donc il a certainement aspiré cette passion et il l'a disséminée dans l'ensemble du bâtiment. C'est ce qui fait que le bâtiment est vraiment unique au monde. C'est son histoire, c'est cette démesure, mais aussi un homme qui a tout abandonné pour cette construction. Pendant ses 18 ans, il s'y consacre totalement. Et il y a quelque chose de fou là derrière, dans un pays qui est un pays naissant, mais qui veut incarner son pouvoir. C'est une des plus grandes puissances du monde à l'époque. Troisième, je crois, plus grande puissance du monde, ce tout petit pays qui maintenant est complètement perdu dans l'Europe. Ne parlons même pas de ce qu'elle représente aujourd'hui. Mais c'est ce moment-là que je trouve incroyable et qui est incarné par ce bâtiment.
Comment avez-vous appris que le créateur de Blake et Mortimer, Edgar P. Jacobs, avait l'intention de situer une aventure dans ce lieu si singulier? Ça apparaît dans des notes, dans des carnets?
Oui, dans une note. Figurez-vous que moi, je résistais à cette idée parce que l'éditeur Yves Stirf insistait en disant « Tu dois faire un Blake et Mortimer
c'est
à ta façon ». Oui, c'est à peu près ça. Je me dis « Mais quoi il vient et pourquoi je ferais ça ?» En plus, je n'étais jamais très convaincu par cette idée de reprise. J'avais vu évidemment les réussites que Bravo avait fait avec Spirou. Après est arrivé Mathieu Bonhomme aussi avec Lucky Luke. Et à chaque fois, je me disais « Quand même, il y en a qui savent faire ça, mais moi je ne saurais jamais faire ça, je n'arriverai jamais ». Et puis il y a une note, une petite note de Jacobs qu'il avait laissée, Blake et Mortimer, au palais de justice de Bruxelles. Et là je me suis dit...
C'est tout ?
Oh, il y avait deux, trois lignes sur le fait que Ulrich prenait pouvoir sur, en fait, dans le dôme du palais, à une époque, il y avait les studios qui permettaient d'émettre les ondes radio, les ondes télévisées de la Belgique, donc la RTBF et la radio et TV. Et donc, voilà, Ulrich prenait possession de ça, mais rien de plus. C'était une époque, en plus, où ça avait encore du sens, mais aujourd'hui, évidemment, tout ça a été démantelé depuis les années 70, je crois. Quand j'ai vu cette ligne, Blake et Mortimer au palais de justice, je me suis dit, c'est pas possible. il aurait une telle idée, il aurait eu envie de faire ça. Au départ, c'était Londres qui était le lieu favori pour Blake et Mortimer, ou Paris, puisque SOS Météor se situe à Paris, ou éventuellement des lieux comme ça, porteurs de rêves. La Belgique n'est pas porteur de rêves, encore moins à Bruxelles. Donc, élimination de la cartographie des imaginaires belges. Enfin, en tout cas, d'auteurs de bandes dessinées belges. Et ça, c'était intéressant qu'il était prêt à franchir le cap.
Mais il était fasciné aussi, je crois, par ce palais de justice, parce qu'il était né pas très loin.
Voilà.
C'est un peu en dessous, c'est ça ?
Oui, il était né vraiment pas très très loin. Il devait sans doute jouer quand il était gosse en dessous de ce palais, peut-être même grimper, parce que les enfants, ils grimpaient. C'est une espèce d'immense pyramide. Et d'ailleurs, c'est un chantier, quand on dit c'est un chantier pharaonique, c'est qu'à peu près la même durée du chantier de Khéops. Et donc, oui, il devait être sans doute très marqué par ce bâtiment, comme à peu près tous les gens qui vivaient aux alentours. C'est démesuré. Surtout qu'il faut vous dire que les Marolles, c'est très petit, c'est des petites maisons. Donc, on a l'impression d'une cathédrale, enfin d'un monstre, avec ces toutes petites maisons en dessous, assez pauvres. Il y avait là une espèce de contraste saisissant. Saisissant pour un enfant et aussi un futur dessinateur qui a dû enregistrer là des contrastes et des climats.
Il y a quelque chose d'assez captivant quand on parcourt le dernier pharaon et qu'on connaît votre travail. C'est effectivement cette coïncidence du fait que le palais de justice est en quelque sorte emprisonné depuis 30 ans par des échafaudages.
Oui.
Ce qui rappelle La fièvre du Rubicon, l'un des albums les plus célèbres des Cités Obscures, et ce réseau qui n'en finit pas de se développer. Ouais. J'imagine que vous avez quand même, au moment où vous avez, votre cerveau s'est aligné un peu sur l'idée de cette reprise de Blake et Mortimer, vous avez dit, mais en fait, il y a un dialogue entre votre parcours, votre œuvre, et puis là, ce qui est en train de se profiler.
Enfin, moi, j'ai toujours un moment de retard. C'est seulement en le dessinant que je me suis dit, oui, j'ai l'impression que j'ai déjà un peu fait ça. j'ai l'impression que je retourne sur le lieu du crime. Ouais. Mais j'ai toujours un moment de retard. C'est un peu le dessin et l'envie qui d'abord sont là. Et puis après, vous vous dites, ah, attends, parfois, vous ne savez même pas trop ce que vous faites. C'est ça qui est assez bizarre. Et c'est ça qui est génial dans la bande dessinée. Moi, les auteurs que j'aime, les Franquin, les Hergé ou les Jacobs, j'ai toujours l'impression que leur œuvre est plus grande et va à l'avant d'eux. Ils la suivent, c'est presque leur œuvre qui leur permet d'avancer, de comprendre le monde, de le découvrir. Leurs histoires sont là comme des pionniers, quoi.
Mais est-ce qu'on pourrait presque imaginer que pour vous et Benoît Peeters, c'est d'assister pendant des années à ces échafaudages recouvrant le plus célèbre bâtiment de Bruxelles, ça permet en quelque sorte, ça imprègne votre imaginaire et qui plus tard aboutira à l'accouchement de cette idée de réseau, justement.
Oui, c'est très possible, vous avez tout à fait raison, c'est très très possible, et le fait d'y revenir est comme une boucle aussi par rapport à ça. Oui, c'est certain, ce bâtiment me passionne pour des tas de raisons, évidemment, parce qu'il est monumental, qu'il est théâtral, 70% d'espace inutile, juste
incroyable.
Là, comme un théâtre, comme un gigantesque théâtre, et ça, c'est évidemment, c'est passionnant parce qu'on peut, tout le monde peut y entrer, hein, donc c'est un lieu. En même temps, il y a toujours la justice qui s'y fait, même si beaucoup de gens croient qu'il est abandonné, il l'est pas du tout. Mais il est porteur de récits, il est porteur de tensions, de rêves, d'imaginaires. Et ça, c'était passionnant de se rendre compte que Jacob, sans doute, a été le premier à le sentir et qui voulait y mettre ses personnages. Ça m'a réjoui, ça.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Thank you. Le duo parisien Justice qui proposait de laisser entrer la lumière sur leur premier album en 2005, je crois. Let There Be Light. Tout comme il est question de canaliser le rayon de lumière verte qui s'échappe du palais de Justice de Bruxelles dans Le Dernier Pharaon, la dernière aventure de Blake et Mortimer, scénarisée par Thomas Gunzig, Jaco van der Mel et François Skuyten, ce dernier signant bien évidemment les dessins somptueux de cette BD. François, qu'est-ce qui vous fascine encore chez Edgar P. Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer ?
Vous savez, c'est ce qui me touche chez des auteurs comme ceux-là, c'est qu'ils ont fait très peu de livres. Jacobs avait très peu de livres, une dizaine de livres. Mais chaque livre est un monde en soi. Et chaque livre est une exploration, est un voyage, où il cherche à comprendre des mythes. Les mythes sont temps. Le voyage dans le temps, mais aussi l'Atlantide, mais aussi l'Égypte, Khéops, mais aussi dominer le temps. Enfin, des tas de choses comme ça. À chaque fois, il touche à une dimension de son époque et qu'il cristallise par des dessins et par un récit. C'est une faculté comme ça à être à décrypter son temps.
C'est quelqu'un que vous avez rencontré, je crois.
Oui.
Il me semble même que vous lui avez offert votre premier album.
Oui, ouais, c'est vrai, vous êtes bien renseigné. Un album qui était entièrement réalisé au crayon.
Est-ce que c'est au Médiane de Symbiola en 80
ouais,
ou... ouais, c'est
ouais,
ça
que, okay. j'avais réalisé avec Claude Renard, qui était un ami. On avait fait le dessin et les textes ensemble, le scénario ensemble. Et on était tout fiers, un peu tremblants de lui montrer. Alors je me vois encore un petit peu inquiet de sa réaction. Et lui, en disant « Ah, mais j'ai toujours rêvé de faire un livre au crayon ». Alors nous, on n'en revenait pas, parce que, bon, je savais qu'il avait un petit peu utilisé le crayon dans Le Secret de l'Espadon, et je savais qu'il avait cette envie d'avoir parfois plus de modelé que la ligne claire qui lui était imposée un peu par Hergé, ne le permet, mais j'imaginais pas qu'il y avait ce désir d'avoir un livre entièrement en crayon, ça m'a beaucoup, beaucoup troublé aussi.
La rencontre dure juste le temps de cet échange ou il n'y a pas plus de conseils à ce moment-là ?
Non, il n'y a pas plus de conseils. J'ai quelques tentations au moment où il cherche quelqu'un pour terminer son dernier opus qui est autour de Sato. Mais je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas encore la maturité. Et donc il cherche, et je sais, j'entends qu'il cherche un dessinateur pour l'aider, mais je ne me sens pas capable de l'accompagner. Mais donc voilà, il y a à chaque fois comme ça des petits moments où on se dit est-ce qu'on va se rapprocher de cette œuvre et puis c'est vrai jusqu'à l'insistance de l'éditeur.
Qui a eu l'idée de vieillir les héros, de vieillir Blake et Mortimer, de situer cette histoire, je crois, dans les années 80-90, qui fait que c'est l'épisode le plus proche de nous?
Voilà, alors ça c'était tout de suite imposé. Tout de suite.
Par l'éditeur?
Non. Par nous.
Ah oui, par vous.
Je ne sais plus si c'est moi ou si c'est mes amis Thomas ou Jaco, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Blake et Mortimer aujourd'hui. Mm-hmm. C'est comment ils sauvent le monde aujourd'hui.
Alors, pas tout à fait aujourd'hui, c'est intéressant.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Vous embarrassez pas des téléphones portables, Internet.
Non.
C'est une modernité pas trop poussiéreuse, mais encore là.
Un petit peu comme si on les abandonne au moment où on les prend, au moment où Jacobs les laisse quelque part. Et puis, il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que je ne me sentais pas tout à fait capable de les prendre jeunes comme Jacobs les a incarnés, parce que j'étais trop intimidé par ça, je ne me sentais pas à la hauteur. Et donc, le fait de les vieillir, c'est une façon de les rapprocher de moi un peu, de leur donner un peu de distance, leur relation.
Et de
mélancolie, oui, c'est vrai. Avec un peu de... Il y a eu un peu d'eau dans le gaz, dans leurs relations. Ils sont un petit peu plus éloignés. Et en même temps, ils ont gardé une complicité qui va faire qu'ils vont repartir. Ça nous semblait intéressant pour effectivement marquer ce temps qui a passé. Un temps qui a vu leurs relations évoluer. Un temps qui a vu le monde évoluer aussi. Parce que nous ne sommes plus dans ce monde des années 50. Il n'y a plus cette peur de conflit sino-américain. Il n'y a plus cette peur du nucléaire. Il est toujours là, mais pas du tout de la même façon. Et donc, il y avait l'idée d'essayer de retrouver, avec ces personnages, les angoisses de maintenant. Mm-hmm. Essayer de voir comment on peut incarner. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui d'incarner nos rêves et nos inquiétudes ? Avec un dessin comme celui-là, avec un processus comme celui-là.
Alors, l'histoire du dernier pharaon repose sur une menace, l'hypothèse d'une panne électrique générale qui n'aurait qu'un avantage. Si on regarde la situation avec des lunettes teintées de rouge un peu marxistes, la remise à zéro de tous les comptes bancaires, l'arrêt de tous les systèmes financiers. Ça vous plairait de voir ça ?
Par certains côtés, oui.
Une remise à niveau économique ?
Oui. Ouais, je trouve qu'on a construit un système un peu fou, affolé, qui crée des problèmes considérables avec des pays qui sont victimes de comme ça, il y a de choses insensées, je veux dire, avec des dettes qui les tuent. Et c'est vrai qu'on a parfois le rêve d'un reset, d'un reboot. Et si on mettait tout à zéro, comment on sauve le monde aujourd'hui? Je sais pas.
Sans doute, il faudrait, vous avez raison, commencer par l'économie, probablement.
Oui, exactement. Et par les déséquilibres que cette économie a créés. Et par l'extraordinaire rupture qu'il y a dans certains pays, de rupture de gens qui sont dans une pauvreté accablante, liée simplement à des problèmes économiques, des problèmes qui sont virtuels. Parce que tout cet argent, c'est virtuel, en fait. Et c'est de l'argent qui est sur des disques durs. Et ça, c'est effrayant. Ouais.
Quelle serait votre première réaction si vous appreniez que vous, comme tous les gens de Belgique, d'Europe, du monde, ont compte bancaire à zéro ?
Un soulagement. Beaucoup d'angoisse, mais
un
soulagement.
Un petit peu, mais,
oui, mais un soulagement
aussi.
Un soulagement, parce que tout est possible. Il va falloir tout réinventer. Il va falloir réapprendre à se parler, à dialoguer, à... Il va falloir retrouver, ça sera évidemment, il y en a qui vont se sentir mal, hein, ça c'est sûr. Mais moi j'ai appris depuis quelques années à m'alléger. Mm-hmm. J'ai donné tous mes originaux, j'ai essayé de...
Vous les avez donnés ?
Oui, donnés.
Ah oui.
À la BNF d'ailleurs, okay. Ici à Paris, puis à la Fondation Roi Baudouin en Belgique. Enfin, pas tout, mais 70% presque. Et ça m'a fait énormément de bien, parce que je me suis dit que, après tout, ces planches, elles étaient faites pour être des livres, pour constituer des livres, et que c'était, après tout, leur destinée n'est pas de partir comme ça.
Chez des particuliers.
Chez des particuliers.
Richissimes.
Mais de pouvoir constituer, ou peut-être ou pas, enfin, suivant le désir des uns et des autres, des livres du futur. Et puis surtout, j'avais un problème, c'est que pour moi, un livre, c'est quelque chose qui doit se détacher d'un aspect lié à l'argent. C'est un récit, donc on doit en vivre. Hein. Ça, je ne suis pas du tout naïf. Mais il faut avant tout essayer de ciseler un récit qui justement, n'est pas lié à ce monde mercantile dans lequel on est malgré tout et avec lequel il faut faire. Et donc, je trouvais ça bien de les écarter de ce monde marchand. Là où je suis évidemment fou de rage, c'est de voir que les planches de Jacobs ont été volées. Hein. Vous savez qu'un tiers des planches ont été vendues. Elles ont été sorties frauduleusement d'une fondation par son président. Il n'est pas content quand je dis ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Maintenant, il est dans les griffes de la justice, donc c'est son problème. Mais ce qui est terrible, c'est que Jacobs, justement, avait un très grand souci de conserver cette œuvre dans son intégrité. Il voulait à tout prix que ces planches ne soient pas disséminées. Et c'est exactement le contraire qui est arrivé. Et c'est vrai que ça handicape sa préservation et les livres du futur. Là, aujourd'hui, va s'ouvrir à Paris, au Musée des Arts et Métiers, une magnifique exposition qui s'appelle « Scientifiction » autour de l'œuvre de Jacobs. Mais évidemment, parmi les plus belles planches, elles sont maintenant dans des collections privées. Bon, heureusement, il y a encore de très belles choses qui vont être exposées. Ça va être une très, très belle expo. Ça, je suis vraiment impatient. Je suis dans quelques heures. On va la découvrir. Je suis très enthousiaste parce que c'est une façon... C'est un peu une renaissance pour cette œuvre de Jacobs qui a été quand même là durement impactée.
Par curiosité, François Skuyten, est-ce que vous avez vu le film Fight Club de David Fincher qui va fêter en novembre ses 20 ans ?
Je crois pas.
Alors la dernière image de ce film, c'est justement celle de l'effondrement du système financier avec cette idée de remise à zéro de tous les comptes, l'effacement de toutes les dettes, le monde remis sur un pied d'égalité avec une chanson des Pixies intitulée Where's My Mind ?
Non, j'ai pas vu ça, mais ça me donne envie.
Je vous propose à nos auditeurs d'écouter cette chanson maintenant. Oh,
Pharaon, le dieu vivant de l'Égypte parle maintenant.
Je suis toujours en compagnie du pharaon franco-belge François Skuyten pour le dernier Pharaon, cet album qu'il vient de publier aux éditions d'Argo avec Jacques Vandermel, Laurent Durieux et Thomas Gunzig. Reprise des aventures de Blake et Mortimer. Êtes-vous sujet à des cauchemars comme le professeur Mortimer ?
Non, mais les rêves, oui, cauchemars, rêves, sont très très importants. Je me réveille souvent avec plein de choses dans la tête, avec plein de climats et de...
Sont-ils confidentiels ?
Non, pas spécialement non plus intéressants. mais suffisamment puissants pour donner envie de les incarner par le dessin. D'ailleurs, vous parliez d'Omédiane de Simbiola.
Votre premier album en 1980.
C'est au départ tout à fait un rêve. Vraiment un rêve que j'ai raconté à Claude Renard. Vraiment en disant, voilà, j'ai rêvé de ça cette nuit.
Vous pourriez décrire ce rêve.
Et ce rêve, c'était partir pour apprendre à voler. Ouais, et c'était vrai. Et je lui expliquais comme le compagnonnage, la difficulté, l'appréhension, et puis les essais douloureux, difficiles, dans des mondes un peu comme ça, archaïques, mais aussi très, très réels, très, très physiques, et comment la pesanteur à chaque fois gagnait, puisque je me retrouvais dans des situations difficiles où je m'accrochais à des toitures, je rebondissais, et puis je tombais dans des canals. Et Claude a tout de suite été enthousiaste par cette petite idée. Et on est parti. Ce premier récit est parti complètement d'un rêve. C'est fou parce que c'est presque la seule fois où c'était aussi littéral.
Il n'y a aucun de vos cauchemars dans Le Dernier Pharaon ?
Oh, c'est sûr que... Pour incarner les cauchemars de Mortimer, puisque Mortimer a été victime de ces cauchemars à cause de ce qui s'est passé dans ce palais de justice, du rayonnement qui sort de ce palais de justice. Du coup, la plupart des Bruxellois sont victimes de ces cauchemars. Du coup, la ville est désertée et c'est ce qui va faire aussi que ceux qui vont résister, qui vont rester à l'intérieur, vont devoir essayer de trouver un moyen pour coexister avec ces cauchemars. Alors oui, c'est certain que j'avais besoin de les rendre quand même assez, assez effrayants. Mais ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Jacobs. C'est qu'il a l'art de rendre les choses assez effrayantes. Mmh. Et vraiment, encore maintenant, j'ai des images qui me hantent de son œuvre, parce qu'enfant, ça m'a fait peur.
Quelles images ?
Oh, vraiment, la marque jaune, c'est sûr. Ce monstre sur les câbles, ce personnage noir qui a toutes les forces et qui en même temps résiste et qui en même temps voit, qui a l'air chargé d'électricité. Oui, c'est un démon, mais un démon qui a une crédibilité graphique et qui a une puissance dans sa forme. C'est comme une espèce d'icône, comme ça. Ça, c'est quelque chose que Jacob sait particulièrement bien rendre, à tel point que ses récits étaient considérés comme trop effrayants par la censure française, puisque le piège diabolique va être interdit, ce qui lui sera très, très dommageable, puisqu'il va perdre évidemment son... principalement la plus grande partie de ses lecteurs sur cet album. Après, ça va être bien sûr rétabli après un certain nombre d'années. La censure française était assez redoutable pour les lectures, pour la jeunesse. Oui. Et donc, c'est pour vous dire que ça n'était pas rien, ces livres-là. Ils étaient chargés de quelque chose d'assez terrifiant.
Un an pour écrire le scénario du Dernier Pharaon, sur la table à dessin, tout en élaborant le storyboard. 4 ans pour dessiner les 84 planches de l'album. Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar ?
C'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un an et demi sur le storyboard et trois ans sur les planches. Mais après, bon, il y a la documentation, il y a les recherches. Parallèlement, j'allais sur Khéops.
Vous êtes allé en voyage en Égypte plusieurs fois
Non, plusieurs fois. Avec la mission Scan Pyramide. Donc, Mehdi Tayoubi, toute son équipe, je les ai accompagnés. Donc, on était vraiment totalement immergés avec les scientifiques, avec... un monde qui essayait de comprendre, les ingénieurs qui essayaient de comprendre comment cette pyramide a été construite, qu'est-ce qu'elle avait en elle. Donc c'était une façon de retrouver Jacobs aussi. Donc tout ça prend du temps. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est la chose la plus précieuse. C'est que le livre soit le résultat d'un long processus. Que effectivement, ça peut vous sembler bien étrange à une époque où aujourd'hui, on doit aller plus vite. Je suis un peu à contre-temps. Je vois bien.
C'est pas une mauvaise chose. Hein.
Non, c'est pas une mauvaise chose. Ça rend parfois les choses plus difficiles, surtout parce que l'économie ne correspond pas toujours à cette accélération. Enfin, quand vous résistez à l'accélération, ben, vous êtes devant. Vous semblez un peu en. Voilà. En décrochage. Un peu un dinosaure.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces séjours en Égypte? Est-ce que quand vous voyagez, vous avez toujours un carnet ou
oui.
Est-ce que oui, si, oui, vous prenez énormément de croquis, faites énormément de croquis.
Oui, j'adore ça. Ici, je m'étais vraiment mis ça comme objectif. C'était d'accompagner, de dessiner à tel point même que je dessinais les endroits que les scientifiques considéraient comme problématiques où ils avaient des différences de température parce que les pierres n'ont pas la même température suivant qu'il y a un vide à l'arrière ou pas. Mm-hmm. Donc je me suis comme ça obstiné à essayer de les aider et quand on discutait le soir, on voyait bien que ça apportait quelque chose, le dessin. Ça qui était passionnant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, malgré les photographes, malgré les... Voilà le chien.
La malédiction du pharaon, c'est ça.
Il n'était pas en Égypte. Il décèle les mots.
Non mais à rigueur, il a raison, puisqu'il y a des gens qui passent pas loin du studio qui font du bruit. Merci, Jim.
Il avait besoin de se manifester. Et donc, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était que on était dans une aventure où on voyait bien que la démarche artistique, la démarche de dessin, était une démarche très complémentaire en réalité. Et ça, c'était vraiment l'objectif du projet. C'était de faire dialoguer un acousticien. Il y a Nicolas Godin du groupe R qui nous a accompagnés.
Ah oui, d'accord.
Oui. Et qui d'ailleurs était terriblement sensible à l'acoustique de la chambre du roi. Je vois encore la tête quand il est sorti. Il était très troublé parce que c'est très particulier. Et puis, il y avait aussi un remarquable photographe, Philippe Bourselier. Il y avait un peintre que j'adore, Alexandre Bolinski. Donc, c'était ça que je trouvais intéressant, c'était de retrouver un peu ces missions qui étaient là et qui faisaient dialoguer le regard, qui n'étaient pas enfermés dans une espèce de même et seule direction, mais qui savaient avoir des controverses, des débats, et où la parole circule. Et c'était formidable, ce moment. Et ça a énormément enrichi le livre. On ne dessine plus la Grande Pyramide quand on a passé des heures, quand on était dessus, quand on l'a un peu grimpé, quand on est entré dedans, quand on l'a touché, quand on a passé des heures dessus, à voir la lumière changer. On ne dessine plus là. C'est plus la même objet, c'est plus la même chose.
L'Égypte, c'est un pays que vous connaissiez avant, déjà,
non.
Avant ces jours-là.
Non, pas du tout. Ce que j'adore, c'est quand le dessin vous permet de découvrir. Le dessin est un outil formidable pour comprendre. Moi, je me considère toujours un peu comme aveugle. Mmh. Et quand je commence à observer, c'est le dessin qui vous dit « Ah oui, je croyais l'avoir vu, mais je ne l'avais pas regardé. » Et en fait, le dessin vous oblige à observer, à décrypter. Et à ce moment-là, la lumière change, le temps, et ça bouge, et vous commencez à voir. Thank you.
Merci à Nicolas Godin, la moitié du groupe R, qui nous a fait parvenir ce morceau inspiré de son séjour en Égypte, au Caire, avec mon invité de ce soir, le dessinateur belge François Skuyten. Nicolas nous précise, la réverb utilisée pour ce morceau est la reproduction de celle du tombeau de Khéops, recréée à partir de ses enregistrements sur place. Quand on écoute le morceau, on doit avoir l'impression de l'écouter depuis l'intérieur du tombeau.
Je crois que lui, il a essayé de rendre vraiment ce climat très particulier quand on entre. C'est vraiment un parcours très particulier d'entrer dans la Grande Pyramide. Au début, on entre dans ce chaos de pierre qui a été creusé comme ça, avec au marteau, puisqu'on a voulu saisir un peu le mystère. Et puis, on tombe enfin sur le couloir que les Égyptiens avaient aménagé. Et puis, dans cette grande allée, qui elle est monumentale au cœur de cette pyramide. Et puis après, on arrive, après t'être couché, on arrive enfin à la chambre du roi. C'est un parcours qui vous passez par différents sentiments, des moments assez, vous êtes un peu écrasé, d'autres moments où brusquement vous semblez respirer. Et alors vivre ça tout seul, parce que les Égyptiens nous permettaient d'avoir la pyramide pendant quelques heures entièrement.
Incroyable.
Pour nous, c'était un moment magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément aussi impacté Thomas, Jaco et Laurent quand je leur racontais tout ça. Parce que je revenais avec les dessins, les esquisses, et puis j'essayais de leur rendre un petit peu l'émotion. Et puis ce qu'on découvrait, on a découvert une immense salle au cœur de Khéops. Mais pas physiquement, mais virtuellement, on sait qu'elle est là. Trois équipes scientifiques qui arrivent au même résultat. Une immense salle au cœur de cette pyramide,
qui
n'est pas ouverte parce qu'ils n'ont pas encore décidé de percer. C'est un trou très très fin qu'il faudrait faire sur 2 mètres peut-être, et qui nous donnerait accès à un premier couloir, et puis après à cette grande salle. Pour l'instant, à la Cité de l'Architecture, on peut virtuellement, donc avec des lunettes VR, voir. Si on prend rendez-vous, on peut voir, on peut entrer dans la Grande Pyramide et voir cette salle. Et là, quelque part, vous êtes aussi relié au mystère de la Grande Pyramide de Jacobs, puisque il y a à peu près au moment où il réalisait cette histoire de la Grande Pyramide.
Dans les années 50.
Dans les années 50, il était convaincu qu'il y avait encore d'immenses choses à découvrir dans Khéops, contre l'avis de tous les égyptologues. Et il avait raison.
François Skuyten, le mois dernier, vous avez créé un certain émoi dans le milieu de la bande dessinée en laissant entendre que vous étiez sur le point d'arrêter la BD. Puis, vous avez nuancé cette déclaration, il ne faut jamais dire jamais, vous n'avez plus de projet de BD pour le moment, et surtout, vous avez expliqué d'où provenait ce sentiment d'un système, le monde de l'édition, qui incite à la surproduction d'albums. Vous avez expliqué qu'être un dessinateur semble impliquer aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux, de monter des expositions. Et pendant ce temps-là, on dessine moins, et surtout le métier devient de plus en plus précaire. C'était essentiellement une façon de tirer la sonnette d'alarme.
Oui, oui, c'est vraiment le résultat d'une longue réflexion. Le sentiment que peut-être j'ai dit ce que j'avais à dire, que c'est pas si grave de changer un petit peu, de se botter le cul pour aller ailleurs, pour aller voir ailleurs, pour se remettre en question, que ce monde de la BD que j'aime tellement, peut-être que je ne suis plus capable de le réaliser comme j'ai envie aujourd'hui, que c'est encore plus difficile parce que je ne sais pas dessiner plus vite, que je n'ai pas envie, et que je devrais encore plus me remettre en question, parce que je trouve que je devrais encore faire de nouveaux progrès, parce que j'ai l'impression que j'attrape aussi des tics et je dois me battre. Heureusement, j'ai eu, pour le dernier Pharaon, j'ai eu Laurent Durieux qui m'a bien secoué régulièrement, qui me critiquait. J'avais mes deux amis aussi qui étaient derrière, et même l'éditeur Schlieff qui ne s'est pas privé de quelques réflexions, à juste titre.
De quel type ?
De quel type ? Tiens, ton personnage, là, il n'est pas terrible.
Ah ouais.
Et c'est aussi simple.
Et ça fait du bien, en fait.
Et ça fait du bien. Et ça fait du bien de dire, oui, en fait, il a raison. Je crois que je dois l'améliorer, je dois retravailler. Et même s'ils sont vieux, ils ne peuvent pas être... Et voilà, il faut retravailler. Ce temps-là est absolument nécessaire. Ce temps-là n'est pas un temps préservé aujourd'hui. C'est un temps qui est contraint, mine de rien, par le fait qu'on est en attente de nouveautés. 5200, 300 nouveautés par an.
En
bande dessinée. On est dans un flux constant. Après tout, ce livre est un éloge, un peu de la décroissance. Mmh. Je me devais d'être un minimum cohérent
avec vos
cohérent.
Valeurs.
Ouais. En tout cas, d'essayer de montrer que le temps est une valeur qui permet de ciseler son travail, de lui donner des fondations, de lui donner une nécessité. Et que ce temps, pour l'instant, est vachement bousculé, secoué.
Le dernier Pharaon figure ce mois-ci parmi les meilleures ventes en bande dessinée. Est-ce que ça bouscule un peu votre détermination ?
Ah, tout au contraire. Je me dis que c'est très bien de terminer par, par là, mais je vais continuer à faire des livres, mais des livres de dessin, à continuer à faire des aventures de, graphiques, des aventures artistiques dans, dans plein de domaines. J'ai plein d'envies, j'ai plein de projets. Mais la bande dessinée, c'est un effort très particulier. C'est un effort. Vous traversez l'Atlantique à la rame, tous les jours. C'est une discipline féroce. Et il ne faut jamais faillir. Et là, j'ai eu une chance folle. J'étais entouré d'amis bienveillants, exigeants mais bienveillants. Et créatifs, c'était formidable. C'était vraiment parfait. Je ne sais pas si c'est possible de retrouver cette extraordinaire synergie.
L'avenir nous le dira.
Ouais.
Vous préparez, je crois, des films d'animation ?
Oui, il y a plusieurs projets dans le domaine du cinéma, il y a plusieurs projets dans le domaine de, voilà, dans différents domaines d'intervention, dans la ville, dans... En fait, je trouve que le dessin m'a permis d'aborder comment on raconte des histoires. C'est quand même le cœur de mon travail. La bande dessinée est une forme formidable parce qu'évidemment, il y a la légèreté. Mais il y a aussi des tas d'autres formes où on peut s'insinuer par l'image, par le dessin, où on peut insinuer le récit. Et on peut s'insinuer dans des dimensions urbaines, dans des dimensions parfois qu'on n'attend pas. On peut introduire de l'imaginaire. Et cet imaginaire, il se construit par le dessin, il se construit par une réflexion sur le récit. On a besoin de récits aujourd'hui. Là, je suis en train de dessiner un orgue. Et vous savez ce qu'il y a au cœur d'un orgue, l'élément central de l'orgue. Ça s'appelle un récit.
Oh !
Et alors j'étais tout heureux de découvrir ça, parce que je me disais, après tout, c'est une évidence. C'est une évidence qu'au cœur de toute chose, il y a un récit.
Oui, depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps. Ce qui nous manque, peut-être, c'est un grand récit pour demain. Mmh. Et voilà, donc c'est se passionner pour des micro-récits, soyons lucides.
Humble.
Soyons précis. Des micro-récits qui peut-être donnent envie d'avoir des récits plus grands et puis qui peuvent peut-être donner envie aux gens d'avoir des grands récits.
Merci infiniment, François Skeuten.
Merci à vous.
Et tandis que je vois François Skeuten et son chien Jim prendre la direction du Musée des Arts et Métiers à Paris pour admirer l'exposition Blake et Mortimer, science-fiction, qui s'est ouverte hier soir et qui sera visible jusqu'au 5 janvier 2020. Exposition qui fait dialoguer une centaine de planches originales d'Edgar P. Jacobs avec des objets du musée. Il me reste à vous signaler que l'émission de ce soir a été réalisée par Sylvain Clabeau, programmation musicale Michael Liot. Je vous donne rendez-vous demain dès 21h pour la dernière émission de cette 7e saison de la Nova Book Box, une émission en live et en public avec Flavien Berger, le compositeur du captivant Contre-temps, se livrera au fil de plusieurs lectures d'extraits tirés de son mémoire de fin d'études ayant pour thème les voyages dans le temps. Ces lectures, mêlées à des instrumentaux de Flavien Berger, seront entrecoupés d'interviews et de morceaux en live. Le tout près d'une soucoupe volante, oui, oui, une vraie soucoupe volante gigantesque qui s'appelle la Maison Futuro, conçue en 1968 par l'architecte finlandais Matti Suuronen. Une soucoupe volante que l'on peut voir au marché Dauphine, au cœur des Puces de Saint-Ouen. Un décor de rêve pour cette émission. Alors, c'était sur inscription, c'est déjà complet, mais venez quand même, on va se serrer. La Nova Book Box avec Flavien Berger, c'est demain dès 21h au 136 rue des Rosiers à Saint-Ouen. Décollez avec nous, enlèvement extraterrestre possible. À demain!
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.